je compris que je tenais l'occasion d'échapper à mon asservissement. Je fis charger le bateau de vivres et d'eau douce et nous nous éloignâmes de la côte. Lorsque nous fûmes à quelque distance de la terre, je me saisis de Mully et le jetai à l'eau par surprise. Je savais quel excellent nageur il était aussi. Je sortis une arquebuse que j'avais tenue cachée et la braquai sur lui en disant: nous ne sommes pas loin de la côte, Mully. Il ne te sera pas difficile de rejoindre la terre ferme à la nage.
Mais dans le coin entre les deux maisons, quand vint la froide matinée, la petite fille était assise, les joues toutes rouges, un sourire à la bouche, morte, morte de froid. Le dernier soir de l'année, le jour de l'an se leva sur un petit cadavre assis là, avec les allumettes dont un paquet avait été presque tout brûlé.
C'était l'occupation et, au début, ça n'empêchait pas les gens de vivre, parce que les horreurs de la guerre, ça vient petit à petit. On ne s'en rend pas compte tout de suite. D'abord, les nazis ont voulu répertorier tous les juifs. Il suffisait d'avoir 3 grands-parents juifs pour être obligé d'inscrire son nom sur une liste. Les nazis disaient que c'était pour nous aider, alors papa nous a inscrits. On ne se méfiait pas assez.
Il était une fois un homme fort riche. Mais par malheur, il avait la barbe bleue. Cela le rendait si terrible que toutes les femmes s'enfuyaient devant lui. Une de ses voisines avait 2 filles. Il en demanda une en mariage, mais ni l'une ni l'autre ne voulait de lui, car il avait déjà épousé plusieurs femmes que l'on n'avait jamais revues. Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et quelques amis dans l'une de ses maisons de campagne pendant 8 jours. Ce n'était que promenade, partie de chasse et de pêche, danse et festins, etc. Enfin, tout alla si bien que la cadette trouva que le maître du logis n'avait plus la barbe aussi bleue, que c'était un homme charmant, et le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage pour une affaire conséquente et qu'il la priait de bien se divertir pendant son absence. « Voilà, dit-il, les clés de tous les meubles et pièces de la maison. Quant à cette petite clé-ci, c'est celle du cabinet au bout de la grande galerie. Ouvrez tout, allez partout, mais je vous défends d'entrer dans ce petit cabinet sous peine de subir ma colère. »
Les gens qui ne savent pas apprivoiser les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que tu siffles et que tu siffles bien, comme un oiseau, tu commences à les entendre. Le bruit que font les arbres, il y a d'abord ses bâillements et ses respirations aiguës. Puis tu aperçois d'autres bruits. Il y a des coups lourds, comme s'il y avait un cœur qui battait quelque part sous la terre. Puis tout un tas de craquements, des branches qui se retracent avec des explosions, des feuilles qui se mettent à trembler, des troncs qui se dérident. Il y a surtout des bruits de sifflement, parce que les arbres te répondent.
Le serpent se tordit en tous sens, courant après sa queue, et ne montrant nulle intention de quitter les lieux. A-t-il replongé? Est-il en train de dévorer nos agnolets? Je crois bien, répondis-je, qu'il ne pense qu'à jouer. À jouer dans la mer écumante, à jouer dans la mer ondulante. Il joua tout le jour, sous nos yeux éveillés. Il joua tout le lendemain, sous la pluie, tel un chapelet de bouées luisantes, dansant sur les vagues mouvantes, 7 jours durant, il nagea et joua dans la baie, entend les gibbes, les criques et les plaintes. On le surprit parfois dormant sur le rivage. Les gens se pressaient en foule pour le contempler, tandis qu'il nageait dans la mer fabuleuse, tandis qu'il nageait dans la mer ancienne et mystérieuse.
Une petite fille qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, et en quelques semaines, elle est devenue la meilleure cuisinière de tout le royaume, parfaitement. Et comme de plus elle était jolie, gentille, gracieuse, tout le monde l'adorait. Si bien qu'un jour, à la table royale, le fils du roi a dit: ah, vous mon père et vous ma mère, je ne sais ce que vous pensez, vos majestés, mais pour moi, je n'ai jamais rien mangé de si bon que ce qu'on nous sert d'aujourd'hui.
Un âne travaillait pour son maître dans un champ lorsque la guerre éclata. L'ennemi arriva aux abords de la maison et le maître voulut partir avec son âne. « Vite !» lui dit-il. « Il me faut fuir !» Mais l'âne refusait de bouger. Le maître exhorta. « L'ennemi est à nos portes. Il nous faut partir avant qu'il ne te capture. » Mais l'âne lui répliqua. « Que m'importe d'être capturé ? Que m'importe qu'il sera mon nouveau maître. Je porte déjà un bas sur mon dos. Crois-tu donc qu'il me changera de deux ? D'après la fable, l'âne sensé.
Pendant plusieurs jours, Botoc reste seul au haut d'une grande falaise. Personne alentour, personne à qui parler. L'enfant a tellement faim qu'il avale le peu de nourriture restée au fond du nid.
Il était une fois un jeune prince qui allait chaque jour à la chasse. Il partait très tôt sur son magnifique cheval blanc, accompagné de ses sloogies qui rabattaient le gibier. Il parcourait le pays des oiseaux, des gazelles et des lions durant plusieurs heures, sans jamais rencontrer un seul intrus. Or, un jour, il aperçut au bord d'un oued une très belle jeune fille qui se désaltérait. Il arrêta sa monture et l'observa quelques instants sans faire de bruit. Mais les sloogies se précipitèrent vers elle et l'entourèrent en aboyant. Le prince calma ses chiens et s'approcha. Il lui demanda ce qu'elle faisait en ce lieu perdu. Il n'obtint aucune réponse car elle était muette. Alors le prince décida de la ramener au palais. Il la prit en croupe sur son cheval et rentra. Un des meilleurs médecins du palais l'a pris en charge. Il l'a mis en confiance et grâce à ses connaissances et à sa patience, parvint à lui faire prononcer quelques sons. Il réveilla en elle ses lointains souvenirs de la parole oubliée à force de vivre seule dans la nature au milieu des animaux. Bien qu'elle eût retrouvé l'usage de la parole, la jeune fille ne livra rien de son histoire. Le prince ne lui en tint pas rigueur, car il était très amoureux. Son père l'autorisa à l'épouser, et l'année suivante naquit un beau garçon. Fou de joie, le prince offrit à son épouse un somptueux collier précieux. Elle n'y prêta guère attention et ne prit même pas la peine de le porter une seule fois.
L'enfer et le paradis. Un jour, on demanda à un sage de donner sa vision du paradis et de l'enfer. En enfer, dit-il, je vois des hommes qui sont attablés devant de grands plats de riz. Mais ils meurent de faim, car les baguettes qu'ils ont pour manger sont longues de 2 mètres. Ils ne peuvent pas s'en servir pour se nourrir. Au paradis, je vois les mêmes hommes assis à la même table et tenant les mêmes baguettes. Ils sont heureux et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes pour nourrir celui qui est assis en face de lui. D'après un conte chinois.
Quelle affaire, étrange et singulière. Quel mystère que l'amour sur la terre. On s'y perd, on y perd, son égo, son alter, son souffle et sa pantoufle de verre. On n'a plus jamais entendu parler de Richard Strauss. Il habitait le même immeuble que moi. Lui en haut, moi en bas. Le soir, après les devoirs, je guettais ses pas dans l'escalier. Il s'arrêtait sur mon palier. J'ouvrais la porte, il était là. Nous allions jouer sur le trottoir.
Depuis 7 ans, une petite n'avait pas vu sa mère. Elle voulait la voir. On l'a habillée toute de fer en prononçant cette parole. Tu iras voir ta mère le jour où tu auras usé cet habit de fer. Matin et soir, la petite se frottait contre les murailles pour déchirer l'habit de fer. Pendant des heures, elle a frotté pour l'user. Pendant des jours, elle a frotté pour l'user. Au bout d'un certain temps, à force de frotter, l'habit de fer s'échappe. Ce jour-là, elle a pris un pain au lait, un fromage et du beurre. Elle est partie voir sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, depuis si longtemps. Elle a marché, marché, marché. Au croisement de 2 chemins, elle a rencontré le loup. Elle a refusé de lui donner du pain et du lait, du fromage et du beurre, ou sinon il n'y aurait plus assez de nourriture pour sa mère. Le loup a demandé « Pour aller chez ta mère, préfères-tu passer par le chemin des épinglettes ou le chemin des aiguillettes ?»« Je préfère le chemin des épinglettes. » Aussitôt, le loup a couru « Vite, vite, vite !» par celui des aiguillettes. Il est entré chez la mère et l'a tué. Il a mis un peu de sa chair dans l'armoire, de son sang dans la marmite, il a mangé le reste. Vite, 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 il a pris la place dans le loup.
Si tu dis un seul mot de ce qui s'est passé, nous te tuerons, chuchota-t-il à l'oreille de Tasha. La jeune fille tremblait de chagrin et de crainte. Non loin de là, le corps d'Ivan gisait sans vie dans la neige qui le couvrait bientôt d'un manteau blanc et glacé. Des créatures des bois s'approchèrent pour voir cette chose qui oubliait de remuer par un temps pareil. Parmi elles, il y avait un loup gris aux yeux jaunes. Il renifla la neige puis s'assit sur son train arrière et lança un hurlement à glacer le sang. Lentement, doucement, Le loup se mit à lécher la plaie de la poitrine d'Ivan. Soudain, le jeune homme se redressa en frissonnant. « Comme j'ai dormi !» s'exclama-t-il. « En quel plaisir de te voir, mon ami !»« Grimpe sur mon dos !» répliqua le loup. « Je te conduirai où tu voudras. »« Je veux rentrer chez moi !» murmura Ivan. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lorsque le tsar Andronovitch apprit la vérité, il jeta Dimitri et Vassili dans un cachot. Puis Ivan et la belle Tacha se marièrent pour la cérémonie de mariage. Ivan chevauchait le loup gris et Tacha montait sur le cheval à crinière d'or. Quant au tsar Andronovitch, il était si content de son précieux oiseau de feu qu'il le laissa manger les pommes d'or de son arbre préféré. Si bien qu'un jour, il n'y en est plus.
Les parents de Khadija étaient nés de l'autre côté de la mer. Tous les étés, ils prenaient le bateau de Marseille pour aller voir leur famille dans le bled, près du côte algérien.
La fête à Humahuaca. Aujourd'hui, c'est la fête à Humahuaca, un petit village des Andes. Tous les enfants ont mis leurs très beaux habits rouges, bleus, verts et leurs bonnets à oreillettes. Beaucoup sont venus de très loin dans de vieux camions à bestiaux qui touchent très fort à cause de l'altitude. Les jours de fête, le papa de Pablo et Dolores a l'habitude de raconter des histoires à tous les enfants du pays qui se sont assis en cercle autour de lui. C'est le conteur de la Quebrada d'Humahuaca. Il fait voler son poncho comme un grand oiseau de bonne augure. Tout à coup, s'arrête, fait un signe à un homme qui frappe sur son tambour et demande aux enfants « Quel est ce cœur qui bat ?» Silence.
Mesdames, dis-je, je vous prie d'être peu claire. Eh bien, dit-elle, nous sommes toutes filles de roi, nous vivons ici ensemble avec l'agrément que vous avez vu. Mais chaque année, il nous faut nous absenter pendant 40 jours. Après...
Le 24 décembre, l'accès de la pièce centrale et surtout du salon attenant avait été strictement interdit depuis le matin aux enfants du conseiller de médecine, Stahlbaum. Fritz et Marie étaient recroquevillés l'un près de l'autre dans un coin de la pièce du fond. La nuit était tombée et ils commençaient à frissonner car, selon l'usage, en ce jour-là, on n'avait pas apporté de lumière. Fritz, dans un chuchotement, réveillait un grand mystère à sa sœur, elle venait d'avoir 7 ans, qu'il avait entendu depuis l'aube, dans les pièces condamnées, des bruissements, des tintements, des coups sourds et légers, et qu'il venait de voir un petit bonhomme noir manger furtivement le corridor avec une grande boîte sous le bras, et que c'était sans doute leur parrain Prince Almeyer. Alors Marie, battant joyeusement de ses petites mains, s'écria « Oh, je voudrais tant savoir ce que notre parrain Prince Almeyer a pu nous faire de beau. »
Revenons à Thésée. À 16 ans, Thésée montrait déjà une force peu commune. Un jour, Aïtra, sa mère, le conduisit devant un gros rocher qu'elle lui demanda de soulever. Il y parvient sans peine. Sous le rocher se trouva une épée. Alors, Aïtra révéla à Thésée qu'il était à la fois le fils du dieu Poséidon et du roi d'Athènes. Elle ajouta « Va voir Égée et montre-lui cette épée, il te reconnaîtra. Pour gagner Athènes, en toute sûreté, mieux valait prendre la mer. » Mais Thésée choisit le bon voyage à pied, long, pénible, sur des terres infestées de brigands et de monstres qui terrorisaient les populations. « Je combattrai les brigands et des monstres et les monstres. » Ainsi, je prouverai ma valeur, dit-il à sa mère en prenant congé.
Le soleil frappe une marche du petit escalier de pierre caché dans les bosquets de laurier. Dans la tache de lumière, une vipère immobile. Plus haut, sur la terrasse, on danse, on s'amuse, on boit du champagne. Un garçon vêtu d'un costume clair, secrètement amoureux de la mariée, est le seul invité malheureux de ce mariage. Un peu ivre, il entraîne celle qu'il aime dans la danse. Il l'enlace et lui murmure des mots d'amour. Fâchée, elle s'échappe et court vers les lauriers. Elle trébuche dans l'escalier de pierre, perd une chaussure, marche sur la vipère. Le reptile se tord, ouvre la bouche et plante ses crocs venimeux dans ce pied nu qui l'écrase. Le garçon appelle à l'aide. Parents et amis à peau, le mari emporte la mariée dans une voiture qui démarre en trombe. Le garçon malheureux lui est à présent deux fois plus. C'est ma faute. Ne te tourmente pas, lui chuchote une jeune fille. Aujourd'hui, les morsures de vipère ne sont presque jamais mortelles et l'hôpital est tout pris. Elle ajoute un rien cruel. Nous sommes en 2009, tu ne t'appelles pas Aristée et la mariée ne s'appelle pas Eurydice. Devant l'air perplexe du garçon, elle s'éteint.